faut garder ce ballon, on ne le perd pas. C'est gagné pour l'Union Sportive Bretagne qui s'impose dans la liesse générale du Stade Marcel Berchet.
Radio B, Radio B.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Au cœur des violets, votre émission trimestrielle de rugby en partenariat avec l'USBPA, l'Union Sportive Bressane. Aujourd'hui, nous allons parler des coulisses du club de rugby, comment il se finance, comment il se développe. En bref, les rouages du club auxquels on ne pense pas toujours quand on profite des matchs. Nous reviendrons sur l'installation de la nouvelle tribune sud du stade Marcel Verchères, en place depuis le début de l'année. Nous parlerons aussi de ce que représente l'USBPA pour la ville, sur son renom comme sur son économie, et nous terminerons l'émission par un bilan de cette mi-saison pour le club. Aujourd'hui avec nous en studio, Jean-Pierre Humbert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'USBPA. Avec nous aussi, Éric Thomas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller délégué au sport à la CA3B, la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse. Et enfin, Jean-François Debat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le maire de Bourg et le président de la CA3B. L'US Bressane évolue cette saison en Fédéral 1. Les violets sont descendus par rapport à la saison dernière où ils étaient en Pro D2. Jean-Pierre Humbert, Pro D2 ou Fédéral 1, au niveau de votre budget, quels sont les changements ?
Les changements très importants, c'est principalement les droits de télévision que nous avons quand nous sommes en Pro D2 et que nous n'avons pas quand nous sommes en Fédéral 1. Pour l'année dernière, c'est, si ma mémoire est bonne, c'est 1 650 000 euros qu'on a eu de droits de télévision, plus 300 000 euros de primes à la montée. Donc vous voyez, ça fait une petite différence de presque 2 millions de moins. Donc voilà, c'est, on le sait, c'est la Pro D2, on a les droits télé. Cette année, en Fédéral 1, quand l'équipe 21 veut bien nous téléviser, c'est 1 500 à 2 000 euros par match. Donc la différence est quand même très importante.
Et donc cette année, votre budget, il est à combien ?
Alors cette année, le budget association, donc la SASP et l'association, le budget est 3 millions 9 contre 5 500 000 l'année dernière en Pro D2.
D'accord. Et comment vous faites la répartition de ce budget entre la Fédérale 1 et votre association et votre formation ?
Le budget principal, effectivement, c'est sur la SASP. En ce qui concerne l'association, le budget tourne autour de 700 000 euros par an. Donc, pour le centre de formation, pour les jeunes et toutes les équipes, depuis l'école de rugby jusqu'aux espoirs.
Ça représente combien en pourcentage ?
Pourcentage entre 20 et 25% du budget est consacré à l'association sportive et le reste est sur la SASP.
D'accord. Et comment vous gérez cette somme ? Quelles sont les principales dépenses pour votre club ?
Cette année, la principale dépense, c'est la masse salariale. Hein, c'est la masse salariale joueur et de l'encadrement, le staff. Après, le personnel administratif. Après, il y a effectivement, cette année, il y a une petite distorsion par rapport aux autres poules. Où nous, on est dans la poule où on est le plus de déplacements. On a pratiquement 9000 km de déplacements à faire cette année. Donc, ça représente quand même des sommes qui sont relativement importantes. Puisqu'on essaie, pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions, que les joueurs partent la veille du match, donc ça veut dire nécessairement une nuit d'hôtel, un repas, donc ça coûte de l'argent.
Et au niveau des salariés, vous êtes combien ?
Alors salariés, cette année, il y a sur le groupe professionnel environ une quarantaine de joueurs. Le staff sportif, c'est 5, et sur le personnel administratif, c'est 8 personnes aujourd'hui, donc ça fait déjà une belle petite PME où il faut faire les salaires tous les mois.
Et donc ce budget, est-ce que ça fait une grosse différence entre les clubs au niveau de la qualité du jeu des équipes ?
Oui, parce qu'on rencontre des clubs de fédéral aujourd'hui qui ont des budgets de 700 à 800 000 euros. Donc on peut considérer que nous, aujourd'hui, on est certainement avec Albi et Massy dans les plus gros budgets de Fédéral 1. Mais voilà, notre ambition aujourd'hui, c'est de mettre toutes les conditions pour pouvoir remonter en Pro D2. Donc on sait qu'on a essayé de garder le maximum de joueurs par rapport à l'année dernière, puisqu'on a quand même 30 joueurs qui ont évolué en Pro D2 l'année dernière, qui font partie de l'équipe cette année. Et donc ça coûte effectivement un petit peu d'argent.
Donc comment vous faites pour être financé ? Quels sont les différents moyens ?
Alors les financements, c'est déjà les collectivités. Et je tiens à remercier Monsieur le maire et président de l'agglomération pour les aides qu'il donne à l'USB. Le conseil départemental nous subventionne aussi. Et je remercie le président du conseil départemental. Et le reste après, c'est principalement le sponsoring. Donc la démarche commerciale que l'on fait. Et on a deux personnes aujourd'hui au club qui sont dédiées à aller chercher des sponsors. Donc on espère à peu près entre le sponsoring et le mécénat, 1 900 000 euros à aller chercher. Le reste après, c'est la billetterie, l'événementiel, tout ce qui tourne autour des matchs, la buvette. Donc voilà, ce qui sont des ressources non négligeables non plus.
Donc il y a presque 5 ans, le club avait des difficultés financières. Aujourd'hui, comment ça va ?
Ben, ça va très bien. L'année dernière, effectivement, avec la saison en Pro D2, on a des résultats positifs. Je pense que l'USB n'a pas eu un résultat aussi bon depuis très longtemps. Non, mais voilà, les finances sont saines aujourd'hui. On a des fonds propres qui sont aujourd'hui autour de 850 000 euros et qui nous permettent donc d'envisager si le sportif suit à la fin de l'année, si on a la chance de pouvoir remonter en Pro D2, d'envisager effectivement l'année prochaine une saison dans de bonnes conditions financières, effectivement, de pouvoir avoir une masse salariale qui soit importante, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en fonction de vos fonds propres, on vous donne ou pas une masse salariale encadrée ou pas. Donc, c'est ce qui fait souvent la différence. Et le club avait besoin, c'était notre projet Violet 2020, d'avoir des finances saines, et c'est justement avec ces finances saines que si on a la chance de pouvoir remonter en Pro D2, maintenant il y a les aléas du sport, mais si on a la chance de pouvoir remonter, on aura effectivement, on mettra deux meilleures chances de notre côté pour pouvoir rester en Pro D2.
Jean-François Debade, vous êtes président de la communauté d'agglomération de Bourg. Comment vous soutenez le club ?
Mais, d'abord, en étant supporter. Alors, c'est modeste, mais c'est réel. J'aime être à Verchères, j'aime être derrière les violets. Je pense que le petit jingle ou le petit extrait qu'on a entendu, ça me fait penser au match d'Oyonnax la saison dernière. On vit quand même des moments fantastiques avec ce stade plein. Maintenant, être supporter, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas quand on est maire, du moins, et président de la communauté d'agglomération. Il y a évidemment le sujet des subventions qui n'ont pas bougé depuis pratiquement depuis que je suis maire, depuis 12 ans. Celle de la communauté d'agglomération a un peu augmenté. Au total, ville plus agglo, on est au total aux environs, y compris avec l'association, aux environs de 280 000, entre 280 et 300 000 sur l'ensemble du budget. Pourquoi est-ce que ça n'a pas augmenté ? Parce que, Jean-Pierre vient de le dire, l'USBPA, comme la JL Bourg Basket, comme le VBP 01, sont des clubs professionnels. Et donc, ils sont largement financés par leurs activités, c'est-à-dire les partenaires privés. Les collectivités sont des partenaires, mais j'ai toujours indiqué que notre principal vecteur pour aider le club, c'était les infrastructures. Depuis 7 à 8 ans, nous avons successivement, c'était la ville à l'époque, financé l'éclairage du stade, le réceptif qui est le réceptif actuel qui permet d'accueillir les partenaires qui payent aussi pour accueillir de leurs invités dans l'espace réceptif, puis ensuite avec la CA3B nous avons refait le terrain, la tribune CGT, puis maintenant la tribune Center avec le salon VIP. Tout ceci évidemment ça permet d'accueillir les spectateurs. Mais ça permet aussi au club de pouvoir accueillir ses partenaires dans de bonnes conditions, de leur proposer des prestations en dehors du match lui-même, autour du match lui-même, qui génèrent des recettes pour le club. Financer aujourd'hui pour une ville, une agglomération, un club professionnel, ça ne peut pas être financé par la subvention de fonctionnement. Ça ne peut pas être ça le principal vecteur. Si on veut aider, et il faut le faire, et c'est pour ça que nous le faisons, il faut effectivement permettre au club d'avoir des infrastructures qui lui permettent de se professionnaliser. C'est le sens du partenariat que nous avons noué il y a plusieurs années, projet Violet 2020. C'était l'objectif que nous partagions ensemble, c'était l'amélioration du stade, parallèlement à la structuration du club. Comme l'a dit Jean-Pierre, et je lui rends hommage ainsi qu'à l'équipe, l'assainissement financier, mais toute la structuration du club. L'objectif, c'était qu'en 2020, l'USB soit maintenu en Pro D2. De fait, ça n'est pas ce qui est arrivé, parce qu'il y a un aléa sportif l'année dernière, mais tout le reste du contrat a été tenu. Et c'est aussi pour cela que nous avons poursuivi l'aménagement du stade cette année. Et aujourd'hui, pour fournir un écrin à l'USB, apte à, donner du plaisir à 6 000, 7 000, 8 000 spectateurs, mais aussi au club de générer des recettes par le partenariat avec les entreprises. Et j'allais dire que ces entreprises, elles sont partenaires, elles invitent des clients, mais en même temps, elles sont aussi supportrices. Ça contribue à l'ambiance. Et aujourd'hui, il n'y aurait pas de sport professionnel. Il n'y aurait pas l'USB au niveau auquel il se situe il n'y aurait pas le budget que Jean-Pierre Humbert vient d'évoquer s'il n'y avait pas un partenariat d'entreprise extrêmement important, de plusieurs centaines d'entreprises qui sont partenaires de l'USB.
Et donc au-delà donc des fans de rugby, de ses sponsors, pour la ville et les habitants de Bourg-en-Bresse, qu'est-ce que ça représente d'avoir cette équipe de rugby ?
Bah, deux choses. D'abord, l'USB c'est le rugby et l'USB c'est le club doyen à Bourg. Hein, c'est vrai. Il y a l'Alouette des Gaules qui est évidemment un club de lutte qui est de la fin du 19e siècle. Mais l'USB c'est 1902 et c'est le sport traditionnel à Bourg, celui qui est le sport populaire, celui qui est le sport ancré. Le basket a pris sa place, mais a pris sa place, il n'a pas pris la place de l'USB, mais il a pris sa place dans la ville. Mais l'USB, on le sent bien. C'est vraiment, Bourg vibre à Verchères et le cœur de la Bresse vibre à Verchères. Donc c'est d'abord ce plaisir-là et cette ambiance autour du club qui contribue aussi à faire vivre le territoire. Les gens parlent du match, ils y sont allés, ils y sont pas allés, ils en parlent la veille, ils en parlent le lendemain, ils en parlent au café, ils en parlent avec leurs collègues, ils lisent le journal. Ça contribue à créer des événements et à de beaux événements sur le territoire. Et puis au-delà, ça contribue, comme l'accueil du Tour de France au mois de juillet, comme des grands événements culturels, comme Brou, monument préféré des Français, tout ça. Lorsque l'USB réussit des performances, joue en Pro D2, bat Oyonnax ici, bat Biarritz, fait la saison de Pro D2 qu'elle a faite et qu'elle est télévisée, eh bien, ça contribue à envoyer, à traduire le dynamisme de ce territoire ailleurs. Voilà. Et c'est dire à Bourg, ah, voyez, il y a une belle équipe de rugby. Et moi, on m'en parle souvent. On dit, à Bourg, ah, vous avez une belle équipe de rugby. Tout le monde en France n'est pas intéressé par le rugby. Il y en a qui sont intéressés par d'autres activités. Mais tous ceux qui s'intéressent au sport, mais ils savent qu'à Bourg-en-Bresse, on a un club solide de rugby. Et ça contribue à traduire, encore une fois, le dynamisme de notre ville, du Grand Bourg, en France.
Radio B, Radio B.
Maintenant, on va parler de cette tribune sud du stade Verchères. Elle a été inaugurée lors du match de football opposant le club de Bourg, le FBBP 01, à l'Olympique Lyonnais le 4 janvier. C'est la suite des travaux entamés dans le stade Verchères. En 2017, c'était la tribune nord qui était remise à neuf. Éric Thomas, vous pouvez nous rappeler un peu le contexte de ces travaux ?
Oui, alors le contexte des travaux, donc la tribune nord dans un premier temps qui est passée de 2000 à 3250 places, donc qui est offert justement au public sur cette commune dite CGT, l'engouement qu'elle avait par ailleurs et aujourd'hui vraiment quand on voit cette belle tribune et notamment au travers des médias lorsque vous regardez la télé, bon je ne vais pas faire de pub pour l'équipe 21 mais bon souvent oui, ça passe dessus, voilà donc c'est une très belle réalisation et doublée en plus d'une beau dégât, hein, d'un réceptif pour le public, où là, il y a aussi des recettes qui sont engendrées, donc, et pour le plaisir des supporters. Donc ensuite, effectivement, alors, outre la tribune nord, donc nous avons aussi, il faut le rappeler quand même, plusieurs investissements, bien sûr, la pelouse hybride que l'on a fait dans le cadre de la mutualisation du stade avec le football, qui génère aujourd'hui beaucoup de plaisir et de beaux sports, donc, et cette pelouse nous est enviée par énormément de clubs qui viennent nous voir et disent « Oh là là, vraiment, vous avez une pelouse magnifique ». On a aussi deux écrans géants, on a mis des LED aussi pour la publicité, pour les sponsors, les partenaires donc des clubs. Et puis, effectivement, oui, cette tribune sud que nous avons mis en place. Donc, je vous rappelle que la tribune anciennement Millet, donc qui date du début des années 50, a été détruite et remplacée par la continuité de cette tribune Center, où nous avons gagné en plus à peu près 450 places pour faire une tribune aujourd'hui vraiment exceptionnelle, avec, comme tout un chacun le sait, une loge pouvant accueillir 180 personnes avec des sièges dédiés, avec vue sur le stade, pour que véritablement les deux clubs, et notamment l'USBPA aujourd'hui, donc, puissent prendre son envol et puissent proposer à des partenaires une prestation vraiment de qualité et pour justement, comme le disait le président, ne compte pas trop, je dirais, sur les collectivités, mais bien sur un partenariat de qualité qui va pouvoir faire grandir le club.
Donc cette idée de ces travaux dans le stade Verchères, ça commence quand en fait ?
Alors Didier, des travaux du Stade Verchères, eh bien commencent à lorsque le football donc a eu des problématiques de stade, hein, lorsqu'ils sont montés en Ligue 2, et effectivement nous avions donc un Stade Verchères à l'époque, donc ça remontait à bien sûr c'était sous compétence de la ville et qui est passé rapidement en compétence de l'agglomération, l'ex BBA. Comme on l'appelait à l'époque, et donc qui a, à très juste titre, compris que construire un autre stade à plusieurs millions d'euros, alors que nous avions un stade justement où pouvaient s'exprimer les deux clubs, donc cette idée de mutualisation est partie par là, et derrière, on ne peut que s'en féliciter, parce que c'est vraiment une grande économie d'échelle. Alors bien sûr, ça se chiffre en plusieurs millions, effectivement, toutes ces infrastructures, mais quel aurait été le devenir d'un stade, même moyen, avec 30 ou 40 ou 50 millions d'euros de collectif, que la collectivité aurait dépensé. Donc il faut bien garder à l'esprit, et ça ouvrait en plus au cœur de la ville les perspectives pour l'USBPA de pouvoir se développer. Et ne serait-ce que, moi je me rappelle bien, quand nous avons mis la lumière au stade, rien que ça, donc vous voyez, donc, le développement était très important. Et quand on voyait le stade, il y a ne serait-ce que 5-6 ans, et le stade d'aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout le même. Et pour le plaisir des spectateurs, des sportifs et du staff, n'est-ce pas, Président ?
Donc pour revenir sur cette tribune sud, peut-être que les supporters n'ont pas encore eu la chance de l'essayer. Elle se présente comment ? Il y a un espace média qui va apparaître. Comment ça se passe ?
Oui, tout à fait. Donc vous avez un espace média, puisqu'il faut aussi recevoir donc les médias dans de très bonnes conditions, et notamment pour la télé. Vous avez un espace presse aussi dédié, une loge comme je vous l'ai dit, et puis une capacité de 1750 places, portant donc le stade à 6500 places assises, contrairement avant où nous étions partis de 4800, et puis ensuite avec la tribune nord à 6000, et aujourd'hui 6500 places assises, et portant l'ensemble du stade à un maximum de 9000 places. Donc, et c'est un petit peu l'objectif. Et derrière, je m'adresse aussi au président Humbert, qui, je suis certain, nous offrira encore de très belles joutes sportives avec des clubs de haut niveau, et nous serons très heureux de les accueillir.
Donc sur cette tribune, il y a aussi des places ajoutées pour les personnes à mobilité réduite.
Oui, oui, 20 places pour les personnes à mobilité réduite ont été refaites. Et puis la tribune center aussi s'est appropriée justement pour pouvoir faciliter les personnes à mobilité réduite.
Donc il y a eu un petit coup d'accélérateur pour accueillir le match contre l'OL. La tribune a ouverte 2 semaines avant la date prévue. Comment vous avez géré l'organisation des travaux pour qu'ils soient finis en avance ?
Alors, je remercie d'une part, bien sûr, les services de la CA3B qui ont redoublé d'intensité au niveau des travaux avec le groupement. Mais surtout, je remercie aussi le préfet. Parce qu'il ne faut pas oublier donc les pouvoirs publics, et je dirais notamment le préfet, a tout mis en œuvre pour que la commission puisse se réunir pendant les vacances scolaires pour justement acter le fait que nous puissions ouvrir cette tribune en toute sécurité, parce que c'était là le principal objectif.
Donc cette tribune, ça a coûté 3,6 millions d'euros. C'est tout le CA3B qui a payé. Comment ça s'est passé ?
Alors là, effectivement, le contributeur, bien sûr, c'est la CA3B. Il faut savoir que nous avons eu une subvention du conseil départemental à hauteur de 250 000 euros. Mais que oui, effectivement, l'intégralité était financée par la CA3B.
Ça faisait partie, si je peux me permettre, ça faisait partie de notre programme d'investissement sur le mandat. C'est-à-dire que les aménagements qui ont été réalisés sur le stade sont importants depuis maintenant une douzaine d'années sur les deux mandats qui sont en train de s'achever. Ils correspondent à l'effort que nous avons. En gros, entre la ville et la communauté d'agglomération, on a mis entre 10 et 11 millions d'euros sur l'ensemble de ce stade pour une quarantaine d'événements sportifs par an. Pour des dizaines de milliers de spectateurs qui viennent participer à ces événements sportifs, effectivement, on partait d'un stade sur lequel les structures remontaient aux années 50 à 60. Donc nous sommes partis de très loin pour en faire un stade moderne. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est la condition et c'était la condition pour accompagner le développement du sport professionnel et notamment du rugby. Sinon, il aurait fallu que les maires successifs ou que moi-même dise à un moment donné au président, au prédécesseur de Jean-Pierre Imbert, non, désolé, on ne pourra pas vous accompagner sur le professionnalisme. On ne pouvait pas dire en même temps, oui, c'est super d'avoir une équipe en Pro D2, une équipe qui peut jouer les premiers rôles, une équipe qui va pouvoir aller au niveau professionnel, juste en leur tapant sur l'épaule et en leur disant, allez-y les petits gars. Et ça ne marche pas. Quand ça se passe comme ça, les élus ne font pas leur travail. Parce que dans ce cas-là, finalement, ils mentent presque par omission au public et au club. Dire on va accompagner la structuration d'un club professionnel, c'est super bien d'avoir un club professionnel à Bourg, mais on ne mettra rien dans le stade ou juste on refera trois barrières et on mettra un panneau d'affichage supplémentaire, ça n'aurait pas été sérieux. Et le choix qui a été fait à la ville, puis à Bourg-en-Bresse agglomération, confirmé à la CA3B, ça a été effectivement d'accompagner le développement de l'USB et également du FBBP qui a joué en Ligue 2. L'accompagnement du sport professionnel, les projets de club et notamment celui de l'USB, en investissant sur l'infrastructure, c'est aussi la raison pour laquelle nos subventions depuis 10 ans sont restées, subventions de fonctionnement, sont restées plus modestes que dans d'autres villes, que sur d'autres clubs, mon cher Jean-Pierre, et surtout ont été stables. C'est-à-dire qu'elles n'ont pratiquement pas augmenté. Elles ont augmenté de peut-être 20 ou 30 000 euros au total par rapport aux chiffres que nous avions il y a 7 à 8 ans. Le choix que nous avons fait, c'est le stade.
Donc ce stade quasiment flambant neuf, samedi 4 janvier, une centaine de sièges ont été cassés pendant le match de football Lyon-Bourg. Le 18 janvier, l'USBPA recevait Narbonne. Comment vous avez géré le problème au niveau de la CA3B ?
Alors, je dirais que le phénomène des sièges cassés a été géré directement par le club du FBBP avec l'Olympique Lyonnais, puisque dès le soir, le match terminé, ils avaient constaté effectivement les dégâts, qui, je le rappelle, ne concernent pas la tribune sud ni la tribune nord, hein, mais bien la tribune avenue des Sports. Donc, ça a été pris en compte tout de suite. Les services s'en sont occupés et le mardi soir, tout était réglé, tout était terminé.
Et l'Olympique Lyonnais a payé les dégâts.
Tout à fait.
Donc au niveau de l'USBPA, comment vous avez reçu cette nouvelle de siège cassé alors qu'il y avait bientôt la rencontre avec Narbonne ?
Très bien, non, mais il n'y a pas eu de problème. On sait qu'on peut s'appuyer sur les services de l'agglomération pour remettre un ordre. Non, mais bon, c'était des désordres. On sait quelles sont les valeurs du rugby. Malheureusement, je sais qu'il y avait 750 supporters d'OL qui étaient là. Bon, il faut aller à l'OL pour voir comment ça se passe. Donc c'est un mini problème. Voilà, il n'y avait pas de quoi en faire. C'était pas très important. Enfin, c'était important que nous, on puisse avoir effectivement la tribune en ordre. Mais là, on a pu compter sur la réactivité des services de l'agglomération pour que ça soit tout rétabli. Et à plus forte raison que le club de l'Olympique Lyonnais s'est acquitté de sa dette et a remboursé les frais qui étaient générés. Il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Donc l'USBPA a inauguré cette nouvelle tribune sud contre Narbonne. Par une victoire, oui, c'est bien de le rappeler. Et donc, est-ce que vous avez senti la différence dans l'ambiance, peut-être, Jean-Pierre Imbert ?
Dans l'ambiance, oui, mais surtout, ce qui était très important, c'est qu'on attendait effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire et Monsieur le président, ça fait partie du développement du club. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on est... Et Dieu sait, si l'année dernière, j'ai fait tous les clubs de Pro D2 de France contre lesquels on a joué. On voit dans tous les clubs aujourd'hui, comme l'a dit M. le maire, les subventions publiques, à un moment donné, elles ont leurs limites. Et donc, de partout, tous les clubs, toutes les agglomérations essayent d'aider les clubs avec le développement des infrastructures. Donc, c'est ce qu'on bénéficie aujourd'hui. Et pour nous, c'était déjà donc, la réception de cette tribune pour le match contre Narbonne, c'était un plus. Et ça va nous permettre aujourd'hui de progresser. Il faut qu'on commercialise maintenant cette loge. On a déjà vendu 80 places donc sur les 180 qui sont déjà vendues à ce jour. Et mon service commercial et le service... marketing s'occupe aujourd'hui de finaliser qu'on puisse arriver à terme à vendre ces 180 places. C'est des prestations qui sont supérieures, donc c'est par contre des rentrées d'argent. Et aujourd'hui, on sait très bien que, quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait un budget de 5,5 millions en Pro D2, c'est le 13e ou le 14e budget ou le 15e. Donc il faut absolument que dans les années qui viennent, on puisse progresser lentement, mais chaque année, on puisse arriver à se stabiliser peut-être à terme un budget de 6,5 millions, 7 millions d'euros qui nous permettront effectivement de pérenniser ce club en Pro D2. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des clubs qui ont 11 ou 12 millions d'euros. Donc, quand vous avez 4 millions, 5 millions, on est dans les derniers de la classe. On a fait une saison exceptionnelle l'année dernière parce que jamais aucun club de Pro D2 n'était descendu avec 60 points. Malheureusement, il nous en a manqué un. C'est comme ça. C'est la dure loi du sport, mais on a... On va profiter de cette expérience de l'année dernière pour effectivement continuer dans notre projet UB 2020 pour encore aller plus loin chaque année pour essayer encore de stabiliser nos ressources, de les augmenter et puis de faire en sorte que effectivement on reste dans les 30 meilleurs clubs de rugby en France. Et faites-moi confiance que c'est pas facile parce qu'aujourd'hui nous sommes allés à Nice. Nice, c'est quand même la troisième ville de France, donc quand on va à Nice, il y a des moyens qui sont supérieurs. Aujourd'hui vous avez un club comme une ville comme Dijon qui fait des efforts. L'année dernière c'était Valence-Romans qui est monté, Rouen, donc on a aujourd'hui des agglomérations et effectivement si on n'est pas soutenu par une agglomération, on ne peut pas exister dans le sport professionnel aujourd'hui. C'est une dure réalité, c'est comme ça. On est dans un sport professionnel, il y a de l'argent sur la table. Donc toute notre ambition aujourd'hui, c'est effectivement progressivement de monter de 200, 300, 400, 500 000 euros chaque année pour arriver à avoir un budget dans la moyenne de ce qui se fait en Pro D2 aujourd'hui.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je voudrais, juste pour vos auditeurs, pour que on soit bien d'accord, j'ai dit tout à l'heure pourquoi nous avions investi un certain nombre de millions d'euros sur 10 ans hein, sur le stade. Je dis aussi que l'USB loue le stade.
Bien, oui, on sait.
L'USB loue le stade, mais il vaut mieux le dire parce que ça fait aussi partie aussi de ce qui doit être dit. Il paye un loyer annuellement qui varie aussi en fonction, je dirais, des contreparties que le club peut en espérer. C'est-à-dire quand le club est en Pro D2, il paye un loyer plus important qu'en fédéral. Le FBBP loue également le stade. Vous dire que ça amortit sur 5 ans les investissements, non. Mais c'est quand même, ce sont quand même des sommes à 6 chiffres. Qui sont, c'est-à-dire plus de 100 000 euros qui rentrent tous les ans, chacun des deux clubs s'acquittant parfois, c'était 120 000 euros pour une année. Aujourd'hui, on doit être au total aux environs de 280 000 euros de rentrée pour l'ensemble des deux clubs, suivant leur niveau. Donc ce ne sont pas des sommes négligeables. Et cela rentre dans l'équilibre économique qu'évoquait Jean-Pierre Humbert tout à l'heure. Générer des recettes en s'appuyant sur le stade, ça signifie aussi qu'à l'avenir, si le club, ce que nous souhaitons tous, progresse et effectivement parvient au budget plus important qui sont nécessaires pour se pérenniser et jouer prendre pleinement sa place en Pro D2, le loyer sera aussi un élément de l'ajustement. L'aglo n'a pas l'objectif de gagner de l'argent avec le stade. Mais il est normal, c'est la logique du sport professionnel, que les sportifs, les clubs payent un loyer, l'AGL paye un loyer pour utiliser Equinox, l'USB paye un loyer pour utiliser Stade Verchères. Il faut juste que nos auditeurs le sachent parce que c'est pas forcément des choses qui sont dites tous les jours. Alors je profite de l'occasion pour les dire ce soir.
Donc cette nouvelle tribune, elle apporte plus de spectateurs. Est-ce que les spectateurs, c'est un pouvoir sur le jeu de l'équipe? Est-ce que l'équipe, vous sentez qu'elle est sensible au nombre de spectateurs?
Oui, tout à fait. Écoutez, quand traditionnellement, ils passent devant la CGT, encore l'autre soir, contre Narbonne, quand vous avez 3200 spectateurs qui sont debout dans les tribunes et qui vous acclament, déjà avant le début du match, et quand vous avez l'autre jour contre Narbonne 6747 spectateurs qui remplissent le stade, je peux vous dire que pour les joueurs, c'est une motivation. J'étais hier à Carcaran dimanche, il y a 600-700 spectateurs. Vous imaginez la différence entre un public, vous en avez 6-7 000 d'un côté, 5-600 de l'autre, vous n'avez pas la même motivation. Et c'est important, et je le sais, je discute souvent avec les joueurs, et je peux vous dire que quand ils sont dans les vestiaires et qu'ils vont rentrer sur le stade... les poils, ils se dressent sur les bras. Donc, c'est important, effectivement, le soutien. Et quand, dans votre jingle, vous entendez Aller Violet et que pendant le match l'année dernière contre Béziers, vous avez, quand on marque les trois essais en seconde mi-temps et que vous avez 8500 personnes qui vous poussent, je peux vous dire que vous avez encore envie d'aller plus loin. Après, il y a la logique du sport. et des choses qui se passent, qui sont passées sur d'autres stades, mais voilà. On n'avait pas la maîtrise, mais au moins on avait la maîtrise de notre jeu et de l'engouement du public, et ça, ça vous sublime.
D'ailleurs, on gagne beaucoup plus à domicile qu'à l'extérieur.
C'est vrai aussi.
Justement, on va revenir sur cette mi-saison. Donc dimanche dernier, les Violets ont arraché la victoire au club de rugby d'hier, un score très serré, 13-12, avec un essai à la 80e minute de Quentin Traversier. L'US Bressane comptabilise maintenant 6 victoires et reste en tête de sa poule. Et maintenant, les joueurs s'entraînent pendant 2 semaines avant de reprendre les matchs. Quel va être l'objectif de cette pause pour les joueurs, Jean-Pierre Imbert?
Bah déjà de se refaire une petite santé, parce qu'on a pas mal de blessés, malheureusement. Le rugby est un sport de contact, de combat. Donc on a des blessés qui, je pense, vont profiter de ces 3 semaines avant le prochain match, la réception de Château-Renard, donc pour se refaire une santé et, voilà, et continuer à travailler, à progresser, parce que rien n'est acquis dans le rugby. On l'a vu encore dimanche à Ayer-Carquéran. On rencontre des équipes qui jouent contre le premier de poule, qui descendent pour des deux. Donc pour eux aussi, c'est une motivation supplémentaire. Donc voilà, on va déjà se ressourcer, se reposer un petit peu et puis remettre le travail, se remettre au travail et puis voilà, aborder la fin de saison. Aujourd'hui, on est premier, je pense qu'on a notre destin entre nos mains. Il nous reste 3 déplacements, dont le 22 à Aubenas, qui est deuxième de poule aujourd'hui, qui sera un test très important pour nous. Mais voilà, je pense que je fais confiance au staff et aux joueurs pour l'aborder dans les meilleures conditions.
Donc vous étiez venu dans cette même émission en juin dernier, Jean-Pierre Imbert. Vous disiez que le groupe était jeune, qu'il fallait un peu de temps pour que tout soit en place. Aujourd'hui, est-ce que l'équipe a avancé dans sa maturation?
Oui, comme notre projet, c'était déjà, quand le projet Ville 2020, c'est de faire confiance à des jeunes issus de la formation. Donc notre équipe Espoir, et je tiens à la féliciter, elle était quand même été championne de France l'année dernière, donc ça n'arrive pas tous les jours d'avoir un titre de championne de France. Donc on a cette année 6 à 7 jeunes du centre de formation qui ont intégré l'équipe première. Et dimanche dernier, hier, Carcarane, on avait Victor Golgenas qui a fait son deuxième match, Audrix Saint-Laville qui a fait son troisième match. Donc voilà, on intègre au fur et à mesure. Et donc la maturation, c'est effectivement que des jeunes. Il y avait Badet qui est blessé aujourd'hui, ces jeunes puissent effectivement progresser au contact de leurs aînés et puis effectivement regarder ce que c'est que le monde professionnel avec toute la dureté mais aussi la beauté de ce sport.
Donc le prochain match pour les Violets, c'est le 15 février au stade Marcel Verchère à Bourg-en-Bresse contre le RC Château-Renard. Comment vous sentez cette prochaine rencontre?
Avec un parfum de revanche. Bah oui, c'était notre première défaite, voilà, donc un match qu'on n'avait peut-être pas abordé dans les meilleures conditions, mais voilà, donc ça nous a servi de leçon et je pense pouvoir vous dire que les joueurs ont coché la date.
Donc la Pro D2, ça sent, c'est bientôt à votre avis?
La Pro D2, c'est un objectif, mais il y a la réalité du sport, il y a la réalité financière aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quelles sont la situation de des clubs concurrents. Il se dit qu'il n'y a peut-être que 2 ou 3 clubs ou 4 clubs qui remplissent les conditions. Parce qu'aujourd'hui, pour ne pas monter en Pro D2, il faut remplir des conditions financières qui sont très strictes. Donc des fonds propres, le nombre de joueurs, les installations. Et je remercie Monsieur le maire et Monsieur le président de tout ce qu'ils font. Parce que si vous n'avez pas un stade qui est homologué pour monter en Pro D2, Chambéry ne l'a pas aujourd'hui. Il y a plein de clubs aujourd'hui qui n'ont pas des stades qui sont homologués pour la Pro D2. Donc voilà, nous, on a la chance de l'avoir aujourd'hui, d'avoir un stade, un bijou, un écrin dans lequel on peut effectivement très bien jouer. Et donc voilà, il faut avancer. Donc aujourd'hui, on est dans notre tableau de marche. Après, il y aura quart de finale, demi-finale. Et on sait qu'on aura des matchs coup près. Et ballon, il est ovale. Des fois, il peut taper dans un sens, dans un autre, rebondir. Donc voilà. Mais on met aujourd'hui tout en œuvre pour y arriver.
Et vous, Jean-François Debat, vous pensez quoi donc, de cette mi-saison?
Moi, vous savez, je suis supporter et quand on est supporter, on est à la fois plus optimiste et parfois assez excessif. Ça fait partie de mon tempérament. C'est vrai qu'on sait que c'est un championnat qui est particulier. Parce qu'il est moins compétitif que l'année dernière, il est même moins compétitif que l'ancienne Fédérale 1, qui était une fédérale élite où tous les plus resserrés, il y avait moins d'écart entre les clubs de haut niveau de cette Fédérale 1 et les clubs plus modestes. Mais la preuve, il y a eu des défaites. Comme supporter, ces défaites, elles m'agacent, comme tout supporter. On se dit, mince, ils ont perdu. Mais en même temps, c'est le sport. Ça prouve aussi que, moi, ce que je vois, c'est que l'équipe, quand elle joue concentrée, motivée, sérieusement et libérée, elle est au-dessus des autres. La question, c'est est-ce qu'on peut l'être à tous les matchs ? C'est ce qu'il faudra. On sait très bien que derrière, il y aura un quart de finale d'abord, avec, sur deux matchs, puis une demi-finale, et que ce sont les deux finalistes qui montent. Eh bien, le supporter est certain qu'en septembre, quand vous avez dit la Pro D2, c'est pour quand ? J'ai dit c'est pour septembre. Mais c'est à la fois ce que je pense et puis évidemment ce que j'espère aussi.
Et vous, Eric Thomas, est-ce que vous pensez que la Pro D2, ça, c'est bientôt, à septembre prochain aussi ?
Bien évidemment, comme le président, nous sommes derrière toute l'équipe et nous serons là pour les phases finales et pour cette accession au Pro D2 qui, je pense, sera méritée. Hein, voilà, parce qu'avec tous les efforts que vous faites et que tout le monde fait d'ailleurs autour de cette équipe.
Après, il faut juste être lucide, c'est du sport, donc voilà, oui. On se donne tous les moyens, mais après...
Aucun combat n'est gagné d'avance,
hein. Exactement.
Ni en politique, ni dans le sport.
Donc ce week-end, si on prend un peu l'échelle, le recul français, c'est le tournoi des Six Nations. Les Six Nations, donc on le rappelle, c'est un tournoi entre la France, l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Italie. Le 15 de France rencontre l'Angleterre ce dimanche à 16h, heure de Paris. C'est un nouveau sélectionneur qui a composé l'équipe, Fabien Galthié. Il a misé sur la jeunesse, comme vous, Jean-Pierre Humbert. Vous pensez quoi de cette équipe ?
Ça, je laisse la responsabilité à Fabien Galthié. Non, mais bon, je pense que il a fait le choix de la jeunesse, c'est-à-dire que l'objectif, je pense, enfin, ce que je lis dans la presse, c'est de viser la Coupe du Monde en 2023. Donc, on a la chance d'avoir une équipe moins de 20 ans qui est deux fois championne du monde. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des jeunes qui sont dans les meilleurs à leur poste respectif. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne solution de dire aujourd'hui, on va faire confiance à ces jeunes, encadrés par quand même des anciens ou déjà des joueurs qui sont confirmés à 50 sélections. Et effectivement, c'est un pari, je pense, sur 2023. Je sais qu'il y a des joueurs aujourd'hui, j'ai lu dans la presse, qui ont 32, 33 ans, qui disent pourquoi j'y suis pas. Ben, effectivement, peut-être que dans 3 ans, ils auront passé la limite d'âge, donc c'est peut-être un pari qu'ils font, enfin je laisse la responsabilité, mais moi je suis très content qu'on fasse confiance à ces jeunes, ils auront besoin de maturation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai lu les commentaires d'Eddie Jones hier, voilà, bon, ben, je pense que ça sera un beau match, et après la loi du sport, je pense qu'on ne sera pas favori, mais j'espère qu'on fera un très beau match et qu'on fera briller les couleurs de la France.
Vous allez être devant votre poste dimanche ?
Ah, bien évidemment, oui.
Vous aussi, Jean-François Debat ?
Ah oui, surtout qu'en plus, les matchs contre les Anglais, on sent qu'il y a quand même toujours un petit, je dirais, un peu de poudre. Voilà. Et moi, j'adore l'Angleterre, mais je déteste perdre contre les Anglais. C'est presque, voilà, ça fait partie, mais le rugby est ainsi fait. L'équipe de France est dans une situation historiquement où on est quand même dans un creux depuis plusieurs années. C'est peut-être aussi lié à la puissance du championnat, qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs. C'est le meilleur championnat du monde. Il y a beaucoup de joueurs étrangers, de très bons joueurs étrangers, hein, mais qui peut-être a comme retentissement le fait que les joueurs français sont peut-être moins nombreux à pouvoir jouer au top niveau. L'Angleterre a connu ça en football, hein. Avec la Première Ligue, il y a tellement de joueurs mondiaux qu'au total, l'Angleterre a eu des difficultés. Mais il faut reconstruire et miser sur 2023 et donc dire que 2020 et 2021, ce sont des phases de reconstruction pour l'équipe de France. Ça paraît cohérent pour le supporter et qui n'est pas un entraîneur de rugby que je suis.
Et vous, Eric Thomas, vous allez suivre le match aussi ?
Oui, bien évidemment, à fond et à fond derrière les Bleus.
Et si on faisait donc un petit tour de table de qui va gagner le tournoi des Six Nations cette année ? Jean-Pierre Humbert ?
Non, je ne sais pas, je pense effectivement l'Angleterre, pour moi, est favorite.
François Debat ?
Moi, je pense que c'est que je parierais plutôt sur le Pays de Galles, qui est aussi dans une génération exceptionnelle. Voilà, plutôt, si on doit dire un, plutôt le Pays de Galles.
Et Eric Thomas ?
Angleterre, mais effectivement, Pays de Galles outsider, et méfions-nous quand même des Français, des petits Français qui seront là.
Merci Jean-François Debat. Je vous rappelle que vous êtes maire de Bourg et président de l'agglomération. Merci Eric Thomas. Vous êtes conseiller en charge des sports pour l'agglomération. Merci Jean-Pierre Imbert, le président de l'USBPA. Merci à Pauline, à la technique. Merci à nos auditeurs pour leur écoute. Et on se retrouve dans 3 mois pour parler de la fin de saison et peut-être, on l'espère, de la montée en Pro D2 des Violets. Bonne soirée sur Radio B.
Merci.
Faut garder ce ballon, on ne le perd pas. C'est gagné pour l'Union Sportive Bretonne qui s'impose dans la liesse générale du stade Marcel Berchet.
Radio B, Radio B.
Installez-vous confortablement, Radio B prend soin de vos oreilles.